La situation dans les écoles est satisfaisante.
Qui c'est qui a dit ça?
Devine. La situation dans les écoles est satisfaisante.
Ah, c'est Jean Castex!
C'est Jean
Jean
Castex.
Castex!
La situation dans les écoles
est satisfaisante!
Ça, plus pensé.
Satisfaisante!
Non, ça c'est Maïté. Bon, alors tout le monde a été choqué par l'intrusion dans le Capitole de quelques énergumènes, hein, des militants trumpistes un peu zinzins, des zigotos sacrément foufous.
Non, mais dis les termes, ça te gêne pas d'habitude.
Oui, des fachos. C'est les gros fachos. C'est les putains de nazis.
Là, on a un redneck avec un sweatshirt Auschwitz. Là, on a la star, Bison Futé, qui est un pro-QAnon en mode théorie du complot et délire paganisto-nazi. Là, on a un t-shirt avec marqué 6MWE. Sex million weren't enough, une référence directe aux juifs génocidés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il y a peut-être une filiation entre ces gens-là et les nazis.
Oui, donc on va prendre ça au sérieux. Donc ce sont pas des barjots, ce sont pas des gens qui ont pas de projet politique ou je sais pas quoi. Non, il y a un projet politique, ce sont des nazis, ce sont des néo-nazis, ce sont des suprémacistes blancs. Et scoop, les nazis non plus n'étaient pas des barjots.
On a tendance en Europe à rejeter les nazis.
Hitler, je déteste ce type.
Pour exorciser cette période et les atrocités de nos voisins d'outre-Rhin, on pathologise le nazisme. Hitler était fou, les Allemands étaient sous la coupe d'une bande de cinglés, des monstres. Voilà, on les exclut ainsi de l'humanité, et mieux, on traite le nazisme comme une aberration dans l'histoire européenne, dans l'histoire qu'on veut bien se raconter en tout cas.
Pour parler du nazisme et des crimes du nazisme, on s'est souvent réfugié dans des explications qui n'en sont pas. La folie, la barbarie, la régression... alors que lorsque l'on regarde qui sont les acteurs, on se rend compte qu'ils ne sont pas fous, on se rend compte que ce sont tous sauf des barbares.
Yoann Chapoutot, historien, est un des plus fameux spécialistes français du nazisme. Là où beaucoup de ses prédécesseurs se sont demandé comment les nazis avaient accompli leur entreprise mortifère, Chapoutot s'est demandé pourquoi. S'ils n'étaient pas fous, qu'avaient-ils donc dans la tête?
Si vous voulez rentrer plus en détail dans ces questions, on vous conseille son bouquin « La loi du sang, penser et agir en nazi ».
C'est un beau programme.
Oui, donc si vous le lisez dans le métro, cachez un peu le titre peut-être là derrière l'image.
Oui, sinon les gens vont croire que vous lisez un bouquin de développement personnel nazi, alors que ça c'est Laurent Oberton.
D'abord, la pensée nazie, c'est une pensée de la force. Les peuples et les individus sont présentés comme soumis à une loi ultime, celle de la jungle, la loi du plus fort. Plaquant sottement sur les sociétés humaines une vision simpliste du darwinisme et de la sélection naturelle, les nazis défendent leur race, et bien entendu leur espace vital. Tous ces termes sont empruntés à la biologie.
Cette doctrine de la compétition acharnée et permanente comme justice immanente, eh bien elle est au cœur de toutes les pensées d'extrême droite.
Et c'est cette doctrine qu'on retrouve d'ailleurs dans le capitalisme, hein, la compétition, la sélection par le marché des plus performants.
D'ailleurs, Chapoutot a fait grand bruit en publiant il y a quelques années « Libre d'obéir », un ouvrage qui dresse un parallèle audacieux entre le management nazi et les doctrines de management enseignées dans nos écoles de commerce.
Il n'y a pas de société, comme le disait Margaret Thatcher, juste des individus en concurrence les uns contre les autres. Et ces individus-là ne sont pas des êtres humains, ce sont des chiffres. Et donc, ce que faisaient les nazis en mettant à distance les choses par un langage particulier, nous le faisons avec les chiffres. Lorsque vous avez des tableaux Excel en face de vous et non pas des êtres humains, eh bien vous pouvez dégraisser, oui.
C'est vrai que c'est gonflé comme comparaison.
Oui, mais c'est pas nous qu'on l'a dit. Hein. C'est un historien spécialiste d'histoire. Sur France Culture, donc
ça fait sérieux.
Donc voilà, la pensée nazie, c'est une pensée de la compétition et de la force. On peut voir que ce discours entre facilement en résonance avec les discours de Trump et ses partisans, qui exaltent la puissance américaine, mais aussi la violence, les armes, la virilité.
D'ailleurs, nous, à gauche, on est décrits comme efféminés, hein. On est des hommes soja, même.
Je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, toi, t'as le physique de tes idées.
Merci.
Voilà, donc il n'y a pas de force des idées, il y a des physiques qui reflètent ou non la force. Voilà, c'est pour les fachos, on en revient toujours au biologique.
Mais ça colle pas avec le réel. Les gens qui gagnent, qui dirigent, qui dominent, c'est pas forcément les plus puissants, les plus charismatiques ou les plus intelligents. Regarde François Hollande.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a besoin d'une autre explication hein, dans les théories d'extrême droite. Si l'ordre naturel qui devrait s'imposer ne s'impose pas de lui-même, c'est qu'il y a des forces qui faussent les règles du jeu naturel.
Et c'est là qu'intervient le complot. Chez les nazis, évidemment, les juifs affaiblissaient la société allemande, ils la féminisaient avec des concepts abstraits comme le droit ou les règles complexes du crédit. Chez les supporters de Trump, le complot vient de l'état profond, forcément aux mains de forces occultes, pédosatanistes, des progressistes qui affaiblissent le rêve américain comme les Antifa ou le mouvement Black Lives Matter.
En France, l'extrême droite a longtemps utilisé le complot maçonnique, mais l'ennemi mortel peut changer, l'important c'est qu'il soit caché.
Ouais, il peut être fantasmé, bricolé à la va-vite, hein, comme le judéo-bolchévique ou l'islamo-gauchiste.
L'islamo-gauchiste qui se terre dans les salles de sport de banlieue radicalisées, ou dans les facs intersectionnelles, ou n'importe où.
Si vous voulez, le verre, des verts correspond comme par hasard aux verts de l'islam.
Mais si...
Il y a, si vous voulez, une alliance composite entre tous ces gens qui est derrière.
Quand on est comme ça, entouré d'ennemis qui conspirent, d'ennemis mortels, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, et ils sont souvent les deux, alors toute violence devient légitime défense. Et c'est parce que le groupe, la race ou le pays sont menacés de mort ou de disparition que sont justifiées la violence politique des arrestations arbitraires ou la déportation de populations entières.
Ah non, on dit remigration maintenant.
Oui, ou alors on précise qu'on ne va déporter que les criminels.
We will begin removing the more than 2 million criminal illegal immigrants from the country.
Mais si vous voulez quand même en déporter plein, il suffit de dire que ce sont tous des criminels.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Tous, Christine, tous.
Pourquoi ?
Donc on résume, il y a un logiciel idéologique commun à l'extrême droite, une pensée du groupe, de la compétition dans le groupe et entre les groupes, une compétition qui est juste et qui stimule et récompense la force. Sauf que cette compétition est faussée par des puissances cachées, des complots menés par des minorités exogènes qu'il faut combattre jusqu'au bout, par la persécution ou par la guerre, et ce n'est que légitime défense car le groupe est menacé d'affaiblissement ou même de mort.
Donc est-ce qu'on est d'accord sur cette base? Parce qu'on va l'utiliser pour aller plus loin la semaine prochaine, donc si on n'est déjà pas d'accord là-dessus, bah, ça va vous faire tout bizarre.
Ah mais parce qu'on s'arrête là?
Oui, non, on va quand même vous faire une petite conclusion, on n'est pas des sagouins.
On va revenir sur notre historien fil rouge, Johan Chapoutot, et on va continuer les comparaisons avec les nazis.
Alors là, les gens vont peut-être penser qu'on fait trop de points Godwin.
Le point Godwin, ça veut dire que dans une discussion entre des inconnus sur Internet, il y a un moment où on finit par parler d'Hitler.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est un référentiel concret, un exemple du mal absolu.
Donc quand on parle sur Internet avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait, on y retombe souvent comme un point de consensus minimum. On est d'accord pour dire que Hitler, c'est le mal absolu. Oui, bon, bah regarde, toi, ce que tu viens de dire, et hop, on compare, voilà.
Voilà, mais ça veut pas dire qu'il faudrait arrêter de faire des comparaisons avec les nazis parce que c'est trop facile.
Au contraire, peut-être qu'il est temps de re-regarder sérieusement l'appareil idéologique des nazis, et pire, de regarder en face ce que nous avons en commun avec eux.
Il s'agit pas de faire un réductionnisme nazi, il s'agit de montrer que les nazis sont bel et bien de notre temps et de notre lieu, c'est-à-dire de l'Occident des 19e et 20e siècles, qu'ils évoluent dans le même monde que nous et qu'ils en sont les acteurs participants.
Et ce n'est pas pour rien que Chapoutot a fini par s'intéresser au management. Il est intéressant de souligner ce que notre modernité néolibérale a en commun avec la modernité nazie, notamment dans la manière qu'elle a de considérer l'humain, dans le travail par exemple.
Et ce que l'on partage là en l'occurrence, c'est de considérer le matériau humain, hein, la ressource humaine. Matériau et ressource, pour moi, c'est aussi atroce, hein, un mot comme l'autre. Parce qu'une ressource, normalement, c'est du charbon, c'est de l'objet, si vous voulez. Et considérer que les gens sont des ressources humaines, je trouve ça odieux. L'après-guerre avait tiré des leçons de la grande crise du libéralisme classique de 1929 et de ses suites, avec cette séquence crise financière, crise économique, crise sociale, crise politique, qui amène le nazisme au pouvoir et qui amène la guerre. Et pour conjurer cela, on avait décidé de créer une société solidaire fondée sur la sécurité sociale et un état social. Eh bien, depuis les années 70, c'est un autre discours d'abord, et puis d'autres pratiques qui se sont installées. Bon, on a eu en 2007 un des gourous du patronat qui a même dit qu'il fallait déconstruire méthodiquement tout ce que le CNR, le Conseil National de la Résistance, avait imaginé, donc plus de solidarité, etc.
Pour Chapoutot, c'est donc face à une vision du monde basée sur la compétition et la force qu'il a fallu se réinventer en créant au contraire des institutions de la solidarité et du commun.
Du coup, conclusion scandaleuse. Est-ce qu'en détricotant le programme du Conseil National de la Résistance, on n'a pas détricoté nos résistances face aux idées dont on avait brièvement triomphé? Parce que là, ces idées, en fait, finalement, elles ont refait surface, elles refont surface sous des formes différentes, des intensités différentes, évidemment. Mais bon, est-ce que c'est pas toujours un petit peu, quand même, les mêmes idées?
Bon, c'est un peu chaud quand même, on compare les idées nazies au capitalisme libéral.
Ah, on va aller plus loin la semaine prochaine. Allez, à lundi prochain.
Bon, c'est pas mal, là, le cliffhanger. Par contre, je me demande si c'est pas un peu trop scandaleux comparer les nazis avec Macron.
C'est pas avec Macron, c'est avec l'idéologie du marché, de la loi du plus fort, du chacun pour soi, de machin, c'est cette idée que les meilleurs survivront et que les autres peuvent crever. Voilà, ça, c'est compatible, je suis désolé. Puis, voilà.
C'est vrai que c'est un peu, on dit un peu tout ce que tout le monde pense tout bas, en vrai. Hein.
Mais voilà, on dit tout, on est les grandes gueules. C'est nous, les vraies grandes gueules, on dit tout haut ce qu'il y a des fois sur des posts Facebook, d'ailleurs, Macron en Asie.
Oui, c'est vrai. Donc on est un peu les posts Facebook de YouTube.
Oui, sauf que nous, on se cache derrière des universitaires.
Voilà, ce que font rarement les posts Facebook.
Voilà.